Vous écoutez RTL.
On était à Vinoche, en famille, et au restaurant ensuite, dimanche soir, et on rentre juste. Donc, je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone, et puis là, je voulais sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis, ou tu m'envoies un petit SMS et tout. Là, je vais coucher une enfant durant ce matin. À tout de suite, peut-être.
Bonsoir, cette voix enregistrée sur un répondeur téléphonique, c'est celle de Xavier Dupont de Ligonnès. La voix d'un fantôme, une ombre après laquelle courent depuis 10 ans toutes les polices, l'homme le plus recherché de France, introuvable, disparu, volatilisé depuis le mois d'avril 2011, date à laquelle on retrouve enfoui sous la terrasse d'une maison bourgeoise de Nantes, toute une famille exterminée, une mère et ses 4 enfants abattus à coups de carabine. Commence alors 10 années de traque pour retrouver l'homme qui manque dans ce sinistre décor. Le père de famille, un commercial de 50 ans, Xavier Dupont de Ligonnès, commence également avec cette silhouette, la construction d'un puzzle impossible à assembler, à tel point qu'aujourd'hui encore, seul Dupont de Ligonnès, dans l'hypothèse où il soit toujours vivant, pourrait répondre à ces questions sans réponse. Pourquoi aurait-il tué toute sa famille? Pourquoi aurait-il choisi de disparaître? C'est cette fascinante énigme, l'anéantissement de toute une famille, la disparition d'un homme que nous allons décrypter ce soir avec nos invités. Nous allons passer en revue les moments clés de cette histoire, essayer de savoir si, après toutes ces années, la vérité ne se cacherait-elle pas dans un détail oublié, un signe infime que l'intéressé aurait lui-même laissé derrière lui, mais que personne n'aurait vu.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, le mystère Xavier Dupont de Ligonnès, 10 ans quasiment jour pour jour que celui-ci a disparu. Énigme qui débute au printemps 2011 dans un quartier tranquille et résidentiel de Nantes, à 20 minutes à peine du centre-ville. Ce jeudi 21 avril 2011, une équipe de l'antenne nantaise de la police judiciaire se rend pour la 5e fois au numéro 55 du boulevard Robert Schumann. Une jolie maison blanche construite en 1820, un seul étage, 5 chambres et un jardin. L'adresse de la famille Dupont de Ligonnès, un couple et leurs 4 enfants. Depuis quelques jours, leurs proches et leurs amis sont sans nouvelles. Les téléphones des uns et des autres restent obstinément muets. Les volets de la maison sont clos, ce qui n'arrive jamais. Un mot a été collé sur la boîte aux lettres à l'attention du facteur. Courrier a retourné à l'expéditeur. Merci. À l'intérieur, aucun signe de vie. Tout le monde a levé le camp. Les armoires ont été vidées. Le sol a été nettoyé dans la cuisine. Les lits n'ont plus de draps. Plus de photos non plus dans les cadres. Aucune trace des 2 labradors de la famille, Léon et Jules. Une absence tout aussi brutale qu'inattendue qui a conduit le parquet de Nantes, 2 jours plus tôt, à ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Rien n'a bougé depuis la précédente visite des policiers, mais cette fois, une lieutenante est attirée par le bric-à-brac sous la terrasse, un arrosoir, des outils de jardinage rouillés, des planches, un débarras qui, une fois ôté, cache une terre fraîchement tassée. Les policiers décident de creuser sous la terrasse de la maison des Dupont de Ligonnès. Ils tombent sur une fine dalle de béton friable, puis sur un amas de couvertures, de duvets et de sacs plastiques. Apparaissent enfin des corps, celui de Thomas, 18 ans, les bras en croix, un chapelet près de son visage. Ceux de l'épouse Agnès et du fils aîné Arthur, 20 ans, avec une petite statuette de la Vierge. Il y a encore dans ce caveau improvisé Anne, 16 ans, les bras en croix, et le plus jeune des enfants, Benoît, 13 ans, une médaille et une croix en or. L'accompagne. Les 2 labradors reposent également ici. Curieuse mise en scène, une bougie témoigne de ce qui a peut-être donné lieu à une cérémonie funèbre. Le père de famille ne se trouve pas dans cette tombe. Toutes les victimes ont été tuées avec une carabine 22 long rifle que possédait Xavier Dupont de Ligonnès. 2 balles dans la tête pour Arthur, Agnès et Anne. 5 pour Benoît, 3 pour Thomas. L'autopsie des 5 corps montre qu'on est en face d'une exécution méthodique, précise alors le procureur de Nantes, Olivier Ronzin. Xavier Dupont de Ligonnès est aussitôt désigné comme le suspect numéro 1 de ce crime. On sait que le dimanche 3 avril, il est allé au cinéma, puis au restaurant, avec presque toute sa famille, à l'exception de Thomas. Dans la nuit, il aurait tué son épouse, sa fille et deux des garçons. Le lendemain, lundi 4, il aurait contacté Thomas, scolarisé près d'Angers, pour lui indiquer que sa mère avait eu un accident de bicyclette. Il serait allé le chercher, aurait dîné avec lui avant de le ramener à Nantes. Thomas n'aurait été abattu que la nuit suivante. Le 7 avril, le père de famille est aperçu par un voisin en train de faire des allées et venues avec des sacs. Deux jours plus tard, le 9, l'ami d'enfance du disparu, Emmanuel Tonneur, découvre deux courriers dans sa boîte aux lettres, deux écrits, qui parlent d'une fuite forcée et ressemblent surtout à un testament. Xavier Dupont de Ligonnès est introuvable. Les enquêteurs vont bien évidemment se pencher sur cette personnalité, ses habitudes et découvrir un profil bien loin de l'homme tranquille qu'on pouvait imaginer. Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'assassinat et les enquêteurs s'activent à reconstituer son parcours, lequel ne s'apparente pas d'ailleurs à une fuite effrénée, mais plutôt à un départ des plus calmes. Après les crimes, on l'a vu ainsi à Angers débarrasser les affaires de son fils Thomas comme s'il s'agissait d'un déménagement. Le lendemain, samedi 9 avril, il a vidé la chambre d'étudiant de son autre fils Arthur à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Pas vraiment un homme aux abois. Dans la foulée, il a pris la route avec sa Citroën C5 immatriculée en Loire Atlantique, une nuit d'hôtel à Puylboro, près de La Rochelle, trois autres nuits à Blagnac, en Haute-Garonne, puis au Pontet, dans le Vaucluse, et enfin dans le Var, à la Seyne-sur-Mer et Roquebrune-sur-Argent. Circuit établi grâce au relevé bancaire. Le 21 avril au soir, deux gendarmes du Var repèrent ainsi la Citroën C5 sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune. Une surveillance est aussitôt mise en place, mais rien ne bouge. L'oiseau s'est déjà envolé. Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait réservé sous le nom de Xavier Dupont, a quitté l'établissement il y a déjà une semaine, le 15 avril. Ce jour-là, les images de vidéosurveillance le montrent en train de s'éloigner à pied sur le parking de l'hôtel avec un sac qui, dira-t-on, pourrait contenir une carabine. Il regarde la caméra de surveillance. Certains y verront un adieu. Où va-t-il alors? Mystère. Plus aucune image. Ils se font dans le paysage. Enfuis, suicidés. Questions qui ne vont cesser de tarauder les enquêteurs. Seule certitude, Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas atterri dans le sud-est au hasard. Un parcours qui pourrait même s'apparenter à un pèlerinage. Tant cette destination finale, le Var, est celle où le fugitif a connu sans doute ses plus belles années. En 1991, il s'était marié ici, à Draguignan, à Agnès Audanger, au cours d'une discrète cérémonie. Il connaissait alors Agnès depuis une dizaine d'années. Il s'était même fiancé en 1982, avant que Xavier, descendant d'une famille aristocratique versaillaise complètement désargentée, ne le quitte pour les beaux yeux d'une Allemande, Claudia, rencontrée en Corse, puis pour un tour des États-Unis avec l'un des meilleurs amis, Michel Rétif, une Amérique où les deux Ligonnès tenteront brièvement de s'installer pour tenter d'y faire fortune sans succès. Dans le Var, Xavier et Agnès Dupont de Ligonnès voulaient monter un commerce d'objets en bois d'olivier. L'affaire périclitera, tout comme à la fin des années 90, la Route des commerçants, une agence de voyage pour VRP. Aucun des projets commerciaux de Dupont de Ligonnès, dont la carte cristal, un système de fidélisation destiné aux restaurateurs, ne parviendra à porter ses fruits. Malgré les naissances des enfants et la respectable façade de la maison de Nantes, la famille vit dans l'instabilité et même dans un certain mal-être. Xavier semble mener une vie solitaire, pétrie de secrets, aux prises de difficultés financières de plus en plus insurmontables. Deux ans avant la tragédie, il fréquente une chef d'entreprise du Val-d'Oise, amie d'enfance, une maîtresse à qui il emprunte 50 000 euros, jamais remboursée. Elle menace de lui envoyer les huissiers. Le 9 avril, elle recevra une lettre menaçante. 30 ans de bonheur ensemble, maintenant tu vas connaître 30 ans de malheur. Agnès, l'épouse, elle, se morfondait. Des écrits découverts par les enquêteurs et des témoignages vont tous dans le sens d'une femme délaissée, malheureuse et abandonnée. Quel déclic aurait-il pu conduire Xavier Dupont de Ligonnès à exterminer toute sa famille? La perspective de la ruine d'un échec personnel lui apparaissant insurmontable? A-t-il imaginé tout seul cette cavale éperdue? Les enquêteurs ont des doutes. Après avoir détecté une trace de Xavier Dupont de Ligonnès dans un hôtel de Roquebrune-sur-Argent, la police judiciaire s'intéresse de plus en plus à l'entourage le plus proche du père de famille, les derniers amis avec qui il a été en contact au moment du drame. Emmanuel Teneur, le destinataire des deux courriers dans lesquels de Ligonnès raconte son extravagante mise au secret par les autorités américaines, est entendu. Cet homme seul, qui habite un modeste F2 à Nantes, revendique être le meilleur ami du disparu, au point de lui vouer une affection sans borne et de lui prêter de l'argent aux policiers, ainsi que le raconte le magazine Society. Teneur explique que Ligonnès avait une arme, une carabine 22 long rifle équipée d'un silencieux. Il s'entraînait avec dans le jardin de sa maison en tirant sur des ballons. Teneur affirme avoir vu pour la dernière fois le disparu le 1er avril. Le 2, il l'a appelé 5 fois. 43 minutes de discussion. Le 5, alors que les premiers assassinats ont déjà été perpétrés, 19 minutes au téléphone. Teneur dira ne plus se souvenir de ces conversations. Il ne se doutait pas qu'une tragédie était alors en train de se jouer. « Je n'ai aucune preuve, mais je crois que Xavier a assassiné sa famille. Je me demande à quel point Agnès ne s'est aperçue de rien, si ça ne serait pas finalement un acte de folie du couple », déclare Emmanuel Teneur aux enquêteurs. Teneur est mort en janvier 2020 d'une embolie pulmonaire. Le deuxième témoin entendu par la police est lui aussi un vieil ami de Xavier Dupont de Ligonnès, Michel Rétif, un commercial qui habite à Lunel dans l'Hérault. L'homme avec qui Ligonnès avait accompli son fameux road trip aux États-Unis en 1989. Le mercredi 6 avril, alors que femme et enfants ont tous été tués, Rétif est le seul à pouvoir joindre son ami Xavier. 25 minutes de conversation, un coup de fil dont il n'a jamais parlé aux enquêteurs. Interrogé, le commercial affirme ne plus se souvenir de la teneur de cet échange téléphonique. « Nous avons discuté de choses courantes. Xavier était normal comme d'habitude. Il n'avait pas l'air stressé », dit-il. La police judiciaire va aussi l'interroger sur sa présence troublante dans le Var. Les 13, 14 et 15 avril, dernier jour où Dupont de Ligonnès a été vu vivant, le téléphone de Rétif a borné dans les environs de Fréjus et même à Roquebrune-sur-Argent. Étonnante coïncidence. Questionné sur ce hasard, Michel Rétif explique qu'il était en déplacement professionnel dans la région. Il avait réservé à l'avance ses hôtels, il donne le nom des personnes qu'il a rencontrées. Le 15, il était effectivement dans le secteur de Roquebrune-sur-Argent car il devait aller récupérer sa fille à Draguignan, ville toute proche. Michel Rétif affirme qu'il ne savait pas que son meilleur ami se trouvait ces jours-là presque à côté de lui. Michel Rétif, atteint d'un cancer, s'est suicidé en mars 2018. Les mois, les années vont s'écouler. Faute d'indices et de témoignages, la police va être contrainte de suivre toute une série de pistes, autant de témoignages troublants et autant d'espoirs déçus. Xavier Dupont de Ligonnès se serait-il inspiré de l'américain John List, cet homme qui avait tué toute sa famille en 1971 avant de disparaître et de refaire sa vie sous un faux nom, échappant ainsi à la justice pendant 18 ans. Le fait que de Ligonnès, comme John List, est parvenu à disparaître complètement du paysage, son visage célèbre, affiché partout, a été reconnu à ce jour à 1200 reprises, 1200 signalements, entraînant tout autant de procès-verbaux. Impossible de répertorier tous les lieux où le père de famille, soupçonné de 5 meurtres, aurait été aperçu. Annecy, Cholet, Nantes, la Corse, une pizzeria du centre de la France ou encore à l'étranger, en Allemagne, où l'intéressé aurait pu chercher à rejoindre Claudia, son amour de jeunesse, en Italie et même aux États-Unis, comme le certifie un touriste français en visite à Las Vegas. D'autres témoignages retiennent davantage l'attention. Le 26 avril 2011, 11 jours après avoir quitté l'hôtel de Roquebrune, de Ligonnès aurait été vu sur l'aire d'autoroute de Lançon en Provence. Mal rasé, portant de gros sacs, une allure de routard, une employée de la cafétéria donne un détail jamais divulgué. Il manquait une dent à cet homme, côté gauche, détail exact. L'homme a été pris en stop dans la nuit par le conducteur d'un minibus Volkswagen qui le déposera près d'Aix-en-Provence. L'individu ressemblant au fugitif sera effectivement filmé par la vidéosurveillance de la gare d'Aix, puis plus aucune trace. Le vendredi 11 octobre 2019, les enquêteurs sont informés par un témoin anonyme mais convaincant que Dupont de Ligonnès va prendre un vol à l'aéroport Charles de Gaulle à destination de Glasgow. Il voyagerait sous un nom d'emprunt, Guy Joao, et habiterait à Limay, dans les Yvelines. Les policiers se rendent immédiatement à Roissy, mais l'avion a déjà décollé. Les autorités écossaises sont alertées. Le dénommé Guy Joao est arrêté sans difficulté à sa descente d'avion. La nouvelle se répand alors comme une traînée de poudre. L'arrestation de Dupont de Ligonnès est même annoncée par certains médias. Physiquement, l'homme en question ne ressemble pas vraiment à de Ligonnès. Mais selon les Écossais, les empreintes digitales concordent sur plusieurs points. Début d'un malentendu qui va durer jusqu'au lendemain matin, samedi 12 octobre. Après une perquisition infructueuse au domicile de l'interpellé à Limay, l'ADN disculpe totalement le malheureux Guy Joao qui, des mois après, dira toujours faire des cauchemars à cause de cette méprise. 10 ans sur les traces de Xavier Dupont de Ligonnès, mais sans parvenir à le retrouver, des investigations toujours en cours qu'un moindre détail, aussi infime soit-il, pourrait peut-être faire basculer. Le 8 avril 2011, alors que toute sa famille avait été exécutée et enterrée sous la terrasse de la maison du boulevard Schumann à Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès envoyait à ses amis sa lettre d'adieu, commençant par ces mots. « Coucou !» Tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Le père de famille s'excuse de ne pas avoir pu tout régler avant ce départ contraint et précipité. Il donne des instructions aux uns et aux autres. À Cédric, l'un de ses amis, il précise qu'il est inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici, dit-il. Une façon maladroite, presque enfantine, de vouloir brouiller les pistes et de finalement y parvenir 10 ans après. Et malgré des centaines d'auditions et de constatations, les policiers ne sont pas parvenus à déterminer pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès aurait tué toute sa famille. Quel pouvait être son mobile? Aurait-il été incapable de supporter les échecs professionnels, d'encaisser une humiliation sociale? Le psychiatre et criminologue Pierre Lamotte indique « Xavier Dupont de Ligonnès a grandi dans un climat, un délire familial où la vérité tue plus que le mensonge, où il est préférable de se protéger par le mensonge. » Dupont de Ligonnès est-il mort ou est-il vivant? Même les policiers les plus chevronnés sont divisés sur le sujet. 50-50, nous a confié l'un d'eux. Notre ami du fugitif, Bruno de Starenbatt, auteur de L'ami impossible, est lui persuadé que de Ligonnès a refait sa vie à l'étranger et qu'en aucun cas il voulait mourir. La région de Roquebrune-sur-Argent, lieu de la dernière apparition de Xavier Dupont de Ligonnès, a été plusieurs fois explorée. En infime partie seulement, elle compte plus de 3000 cavités profondes de plus de 10 mètres. Un endroit peut-être idéal pour disparaître à jamais. Merci beaucoup Anne-Sophie Martin et Maître Stéphane Goldstein d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'énigme Xavier Dupont de Ligonnès, 10 ans de mystère, le seul homme à avoir les réponses finalement aux questions que nous avons posées ce soir. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous ensemble cette heure du crime.